Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard. Nous sommes, oui, déjà le 1er novembre 21 et vous êtes à l'antenne de Canal M. Et ensemble, nous ne ferons pas de détour. Vous écoutez Sans détour. Aujourd'hui, on parle de proche aidance. La proche aidance est un phénomène social essentiel au bien-être de beaucoup de gens au Québec. Il vient de recevoir un coup de pouce pour nous en parler Mélanie Perroux, coordonnatrice générale de Proche Aidance Québec. Nous allons aussi parler de campagne électorale municipale. Cette fois-ci, on se transporte à Laval, une ville vaste et un peu tranquille pour ce qui est de la campagne. On en parle avec Kim Joly, qui est directrice générale du regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval. Et on va regarder un peu les revendications de ce côté-là. Et pour terminer, on parlera d'architecture. On parle d'architecture avec Mme Sophie Langteau, directrice générale de Société Logique, une société qui prône l'accessibilité par le design intelligent. Tout ça à Sans détour. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Mélanie Perroux. Bonjour Mme Perroux, comment allez-vous?
Bonjour, je vais bien et vous?
Ça va très bien, merci. Vous êtes coordonnatrice générale de Proche Aidance Québec, un organisme important. Là, en fait, votre Proche Aidance Québec, ça regroupe des organismes.
Oui, c'est ça. Avant, on s'appelait Regroupement des aidants naturels du Québec, mais on a voulu se mettre au goût du jour et on regroupe à peu près 125 organismes qui, eux, offrent du répit, des services psychosociaux, toutes sortes de services, en fait, à toutes les personnes proches aidantes qu'ils demandent à travers tout le Québec. Ça fait beaucoup de tout, là, mais...
Oui. Alors, au bout du compte, c'est plus de 40 000 personnes proches aidantes là, que vous rejoignez, que vous soutenez par votre action. J'ai vu une statistique comme quoi il y aurait... Est-ce que c'est juste 1,5 million de personnes au Québec? Ou c'est moi qui ai mal vu, il y avait trop de zéros?
Non, vous avez bien vu. C'est à peu près un quart de la population québécoise qui, en 2018, était une personne proche aidante. Puis ça, il y en a qui, en 2017, l'étaient, mais plus en 2018. Qui le seront en 2019, mais qui n'étaient pas en 2018.
Oui, je comprends.
Ça touche beaucoup plus de personnes, dans le fond, à un moment ou à un autre de leur vie.
Exactement. À tout moment, il y a 1,5 million de la population. C'est énorme. Et la plupart de ces personnes qui agissent comme proche aidante auprès d'un parent, parfois d'un voisin ou d'un ami, la majorité sont des femmes.
Oui, encore aujourd'hui, on est à 58%, ce sont des femmes. On pourrait dire qu'on s'approche d'une zone d'équité, mais ce qu'il faut regarder derrière ce chiffre, c'est que les femmes, en moyenne, font plus d'heures, puis font des tâches qui sont plus complexe et surtout plus imprévisible. Donc, ça a plus d'impact aussi sur leur gestion de leur vie à elles
personnelle,
ou de leur
vie
professionnelle.
Oui, parce qu'on peut supposer aussi que la personne qui est proche aidante ne fait pas qu'aider quelqu'un de son entourage. Elle a cette personne-là aussi peut-être des enfants, un conjoint, une conjointe, d'autres activités. Et un travail. Il faut qu'elle gagne sa vie. Et c'est là que la proche aidance devient terriblement lourde tout en étant terriblement nécessaire. Et c'est beaucoup à gérer pour quelqu'un, ça.
Tout à fait. Et en fait, c'est le paradoxe de la proche aidance, c'est que bon, ils sont à peu près une soixantaine de pourcents là à travailler. Mais c'est que le travail à la fois vient compliquer les responsabilités des dents, mais en même temps permet d'avoir comme un répit de son rôle des dents, puis un endroit où on se sent compétent. Donc c'est important de pouvoir le plus possible soutenir les proches aidants en emploi pour qu'ils puissent continuer à avoir ces deux rôles sans complètement s'épuiser là.
Oui, et c'est un peu ce qui a amené l'intervention toute récente qui a été annoncée par la ministre Marguerite Blais, je pense, il y a à peine une semaine, 10 jours. Et cette intervention-là vous a permis de participer à une sorte de maillage des services gouvernementaux, mais aussi que ce maillage-là se fasse avec les ressources du milieu. Parlez-nous-en un peu.
Alors en fait, c'est issu d'une loi qui a été votée en octobre passé, donc il y a un an, puis qui disait, dans le fond, nous on veut que tous les prochains gouvernements et tous les ministères se sentent concernés par la proche aidance et mettre en place des mesures pour soutenir les personnes proches aidantes. Puis ils avaient un an pour déposer un plan d'action, c'est ce qui a été annoncé la semaine dernière. Puis ce plan d'action-là, c'est quand même 61 mesures, là, c'est beaucoup. L'idée, c'est vraiment effectivement de mettre les différents acteurs en collaboration, savoir un peu mieux ce qu'ils font. Et quand ça peut paraître un peu boboche de dire ça, mais dans le milieu de la proche aidance, souvent, c'était géré par le ministère Santé et Services sociaux. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus complexe que ça, oui, parce qu'il y a tout ce qui concerne le travail, les finances,
etc. Exactement. Vous avez parlé tout à l'heure de concilier le travail avec un rôle de proche aidant. Ben là, il faut que ça rejoigne l'employeur et les normes du travail. Donc, on touche au ministère du Travail en faisant ça.
Tout à fait. Puis on touche aussi au ministère de l'Éducation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, des fois dès le primaire, qui sont proches aidants de leurs parents, de leurs grands-parents ou d'un frère et d'une sœur, et qui ont donc des difficultés à concilier ce rôle de proche aidant avec leurs études et qui abandonnent parfois très tôt ces études-là. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment aller chercher tout le monde. Dans le fond, c'est ça que voulait le plan d'action.
Et ce plan-là, donc, a été annoncé. Vous avez participé à sa mise en place, et à son annonce. C'est sûr que c'est 61 mesures, ce qui compte, c'est de les appliquer et de voir le résultat. Mais je pense que, d'abord, pour mettre le pied dans l'étrier, il va y avoir une conscientisation ou une publicité, si on peut dire, ou une campagne sociétale pour que la proche aidance soit d'abord reconnue comme étant un phénomène qui existe et qui est essentiel et qu'on ne peut pas passer sous silence, là.
Oui, il va y avoir effectivement beaucoup à travailler au niveau social pour que les proches aidants soient mieux reconnus. Comme vous dites, c'est un premier pied à l'étrier et j'aurais envie de dire tout est à faire maintenant qu'on a l'étrier, le cheval, puis la direction où aller.
faut l'étrier, mais il faut mettre la selle, puis il faut sortir le cheval de l'écurie aussi.
Oui, c'est ça. Et en fait, moi, je le vois pas tant comme un aboutissement que comme un départ vers beaucoup d'actions. Par exemple, donc là, on en a un peu parlé, il y a beaucoup d'appauvrissement pour les proches aidants. C'est difficile de se maintenir en emploi ou de ne pas réduire ses heures. Quand on est retraité, on pourrait dire oui, donc il n'y a plus de problème d'argent quand on est proche aidant, sauf que on a des dépenses additionnelles quand on est proche aidant et le crédit d'impôt ne rembourse pas ces dépenses. Et surtout, j'aurais envie de dire, ce qu'il y a de majeur aujourd'hui, c'est que on parle beaucoup là depuis quelques années, les proches aidants ne se reconnaissent pas, du coup ils vont pas chercher les services. Puis nous, on a envie d'offrir un point de vue différent. On pense que dans le fond, les proches aidants, qu'ils se reconnaissent ou qu'ils se reconnaissent pas, c'est une chose, mais c'est surtout que souvent, ils ont pas vraiment le temps. Une fois qu'on leur dit qu'ils sont proches aidants, ben s'il faut qu'ils appellent ensuite un organisme là, la Revenu Québec ici, l'employeur là, alors qu'ils ont ils sont déjà en train de faire ça pour la personne qu'ils aident. Donc il y a vraiment un problème là de maillage autour d'eux autres. Qui pourrait faire certaines des tâches? Qui pourrait leur faciliter le trajet? Qui pourrait justement leur mettre à eux le pied à l'étrier pour que ça soit plus facile ensuite d'aller chercher les services, pour qu'ils ne soient pas justement en train de courir après les services, mais que hop, on les emmène directement jusqu'à cette écurie-là où ils pourraient avoir le soutien dont ils ont besoin. Et ça, c'est vraiment un travail là qui est important et qui reste à faire. Le plan d'action commence à en parler, commence à mettre sur la table un peu ce qui va être possible de faire là-dedans, mais ça va être un gros travail avec beaucoup d'acteurs différents.
Parce que quand le plan d'action a été annoncé, on parlait de 17 ministères et organismes, je pense, là, qui ont participé à l'élaboration du plan. Alors, si on peut imaginer que quelqu'un est proche aidant et que cette personne doit contacter une dizaine de guichets différents pour obtenir des services ou de l'aide ou de l'information, la solution ne serait-elle pas qu'il y ait un point de service et que la personne proche aidante puisse tout simplement y déposer son, son fardeau et qu'on la prenne en main parce que ça fait lourd, là. C'est comme une PME.
Voilà.
Là. Oui.
Tout à fait. Un point de service ou un point de référent, parce qu'il y a différentes actions qu'on ne pourra jamais faire à la place de la personne.
Exact.
Et c'est important qu'elle garde son autonomie. Mais une des difficultés là aujourd'hui, c'est de savoir à qui s'adresser, où aller chercher. Et, là, c'est vraiment l'idée de dire, ben, par exemple, dans les organismes communautaires, ils font la plupart toute une panoplie. Ils sont capables de couvrir et d'informer la personne et de l'accompagner dans toutes ces démarches à elle. Et c'est pas eux qui vont aller négocier avec Revenu Québec s'il y a eu un problème, mais c'est eux qui sont capables de leur trouver le formulaire, de l'imprimer,
d'accord,
d'aider la personne à y répondre. C'est eux qui sont capables aussi de leur dire, ah, mais ce que tu vis là, au niveau de la santé, ben, c'est pas correct, tu pourrais déposer une plainte, qui vont accompagner la personne dans c'est où la plainte. Mais aujourd'hui, une des difficultés, c'est qu'il faut se rendre dans ces organismes-là aussi, il faut trouver le bon, il faut qu'eux-mêmes soient...
Et ça c'est en plus d'aider évidemment la personne qu'on a à la maison qui est en situation de vulnérabilité, en plus d'avoir peut-être un travail et des enfants et tout le reste. Il y a zéro place pour le... pour se rafraîchir l'esprit. Alors,
pour soi-même.
Il y a beaucoup d'épuisement chez les proches aidants. Et ça, c'est une des facettes là, que vous allez essayer de corriger. Amener un répit.
Oui, alors amener le répit, ben, ça aussi, ça fait partie du plan d'action. Il y a différents, dans le fond, types de répit qui existent. Et il y en a différents qui vont se faire financer en plus. Encore une fois, quand je disais c'est vraiment le premier pied à l'étrier, c'est que tout le répit plus quotidien, j'aurais envie de dire. Pouvoir avoir quelques heures pour aller faire son épicerie pour soi, ou pour pouvoir avoir au contraire assez de répit pour pouvoir aller travailler. Mais c'est là où on a plus de difficultés aujourd'hui à obtenir ce répit-là. On a du répit pour les fins de semaine, mais par exemple pour les personnes qui font de l'errance, avoir du répit la nuit, C'est extrêmement important, pouvoir dormir la nuit et pas
sans s'inquiéter de qu'est-ce qui va se passer.
Voilà.
Oui, tout à fait. Je pense que, entre autres, Alzheimer Québec a un mode d'aide, mais est-ce qu'il est reproduisible à une grande échelle?
Ben, c'est ça. Il faut que ce soit reproduisible à une grande échelle, mais il faut aussi qu'il puisse toucher tous les proches aidants qui en ont besoin, parce qu'il n'y a pas seulement dans le cas d'Alzheimer qu'il y a ce genre de difficultés-là. Et c'est un peu aussi ce que souhaite faire ce plan d'action, c'est décloisonner, qu'on arrête d'avoir, si t'es proche aidant d'une personne AVC, tu vas à tel endroit, si t'es proche aidant d'un enfant qui a une déficience intellectuelle, tu vas à tel autre endroit.
Exact.
Mais il y a quand même 20% des proches aidants qui s'occupent de deux personnes différentes. Puis c'est pas toujours...
Il y a 20% des proches aidants qui sont des multi-aidants.
Tout à fait.
Oh là
et donc,
là. Oui.
Qui vont être aidants à la fois de leur enfant, qui est maintenant un adulte, qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, puis qui ont eux aussi des parents vieillissants, peut-être une maman qui fait Alzheimer. C'est que eux, là aujourd'hui, ils naviguent en double, j'aurais envie de dire, dans le réseau, parce que ils sont considérés qu'à travers la personne qu'ils aident. Alors que si le réseau les considérait à travers le fait qu'ils sont proches aidants,
ce serait autre chose, ce serait beaucoup plus simple. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Pirou,
de
nous en avoir parlé. Ce qui compte, c'est de rester vigilant. Toutes ces mesures sont très belles et ce qu'il s'agit maintenant, c'est de les appliquer et de voir comment comment la mayonnaise va tenir tout ça ensemble. Ben, merci beaucoup, bonne journée.
Merci, au revoir.
C'était Mood for a Day du guitariste Steve Howe. Steve Howe était guitariste, membre du groupe Yes, qui est un membre de rock progressif britannique dans les années 70 et qui se produit encore sous différentes incarnations jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça ressemble pas du tout aux autres œuvres de Yes, mais c'est très joli, ça s'écoute bien. Voilà, nous allons parler maintenant élections municipales, encore une fois, mais c'est la semaine prochaine, puis après, on fera d'autres choses. Laval est une ville de presque un demi-million d'habitants et la campagne municipale là-bas semble passer un petit peu inaperçue. Il y a une dizaine de candidats, candidates. Personne ne semble se démarquer et ça n'empêche les gens en situation d'handicap de la région de Laval ont besoin qu'on fasse quelque chose. Alors, le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval a présenté une plateforme de demande d'accessibilité universelle. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Kim Joly, qui en est la directrice. Bonjour, Mme Joly.
Bonjour, M. Beauregard.
Ça va bien?
Ça va bien, merci, et vous?
Ça va bien. Ben oui, l'élection à Laval, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais pour vous, c'est important, c'est chez vous.
Ben oui, effectivement. Surtout qu'on le sait, là, au niveau municipal, il y a plein d'enjeux qui touchent directement là, les personnes qui ont des limitations fonctionnelles.
Oui, exact. L'accessibilité des lieux, des services, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Avant de parler de vos revendications, pouvez-vous me décrire un peu l'état des lieux à Laval? Comment Laval se compare avec d'autres endroits en termes d'accessibilité?
À Laval, en fait, la ville vient d'adopter une politique d'accessibilité universelle. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas encore de plan d'action nécessairement qui est rattaché à tout ça, mais on sent là, que au cours des dernières années, du moins, il y a un désir de mettre davantage de l'avant l'accessibilité universelle au sein là, de tous les services de Laval. Mais bon, on n'est pas rendu là encore.
Parce que l'accessibilité universelle, ça touche plusieurs aspects de la vie des gens qui sont en situation d'handicap. Et ça, c'est souvent des sujets qui relèvent de l'administration municipale. Si on parle du transport, de la circulation, de la vie en titre de piéton, entre autres, l'accès à l'information locale, ainsi de suite. Alors, parlez-nous un petit peu de la plateforme que vous avez présentée. Est-ce qu'elle touche tous ces sujets-là?
Nous, comme vous disiez, on est un regroupement. Mm-hmm. Donc, avec nos organismes membres qui ont participé à notre comité de travail, on a décidé d'axer notre plateforme plutôt sur l'accessibilité universelle, comme je disais, là, puisqu'elle a quand même une certaine résonance à Laval, mm-hmm. Étant donné que la ville vient tout juste d'adopter la politique. Même si on dit souvent que l'accessibilité universelle, elle profite à tout le monde, on voulait quand même faire prendre conscience aux candidats et aux candidates que c'est une condition essentielle à l'exercice des droits des personnes en situation de handicap. Hein. Tant qu'il va y avoir mm-hmm. des obstacles au niveau de la municipalité, il va être difficile pour ces personnes-là d'avoir une participation sociale et citoyenne pleine et entière. Donc, notre plateforme, on a décidé, de l'axer sur l'accessibilité universelle, mais à travers quatre droits. Donc, des droits qui appartiennent à tout le monde, mais pour lesquels l'accessibilité universelle est essentielle. Donc, on parle du droit d'accès aux espaces publics et aux services municipaux, mm-hmm. du droit d'accès à l'information, du droit au logement, ainsi que du droit à la mobilité.
D'accord. Et quand si on parle de l'accès aux espaces publics et aux services municipaux, là, on va parler de l'hôtel de ville, d'abord.
Entre autres, mais ça peut être vraiment tout.
Oui.
Oui, c'est ça, exactement. Tous les bâtiments qui sont gérés par la ville, là, qui appartiennent à la ville, mm-hmm. puis où les citoyens et citoyennes vont aller soit chercher des services, soit utiliser là, les infrastructures.
D'accord. Puis donc, et de ce côté-là, comme souvent il y a du vieux bâti, là, il y a peut-être des mises à niveau là, qui s'imposent.
Ben oui, exactement. On le sait, là, les personnes vont rencontrer souvent des obstacles lorsqu'elles vont accéder aux espaces publics. On a des exemples concrets que nous ont rapportés nos organismes membres qui ont eux-mêmes vécu mm-hmm. Avec leurs membres. T'sais, par exemple, des toilettes non accessibles, des accès extérieurs qui vont être parfois inexistants, mais mm-hmm. Peut-être des fois mal adaptés, voire dangereux. Puis il n'y a pas seulement l'accessibilité du bâti aussi, là, quand on parle d'accès aux espaces publics et aux services municipaux, il faut aussi penser à quel accueil va être réservé aux personnes.
Oui, tout à fait.
Une fois qu'elles, lorsqu'elles utilisent là, les services. Là.
Et il y a parallèlement à ça aussi souvent la façon d'aborder ou d'être en relation avec sa municipalité, ça va être par le site web, là, par l'accès à l'information.
Oui, exactement.
Est-ce que le site web de la ville, je ne l'ai pas visité, j'en conviens, est-ce qu'il est accessible? Quelqu'un, par exemple, qui a une déficience visuelle, est-ce que c'est un site qui permet tout de même d'y trouver ce qu'on cherche?
Dans l'état actuel des communications, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de site web ou de communication 100% accessible.
Mm-hmm.
L'aspect des communications fait partie de la politique en accessibilité universelle, mais nous, en tout cas, ce qu'on a remarqué quand même, c'est que les personnes, elles vont rencontrer des obstacles quand elles vont vouloir accéder à l'information, mm-hmm. tant au niveau des supports de communication qui sont utilisés que du contenu aussi qui va être...
Ah, participé. D'accord, oui, aussi, de la façon qu'il va être livré.
Exactement. Donc, pour nous, la ville, elle doit s'assurer de l'accessibilité de ses communications à la population, notamment d'abord en les simplifiant. Donc ça va servir à tout le monde aussi, je pense,
mm-hmm.
Mais aussi en facilitant là, l'accès aux médias substituts, aux interprètes en langue des signes québécoise, puis en s'assurant là, effectivement de l'accessibilité de tous ces outils numériques.
Okay. Pour ce qui est du logement, est-ce qu'il y a une politique du logement adapté ou du logement social à Laval? Parce que l'image qu'on s'en fait souvent, c'est que c'est une banlieue faite d'automobilistes. Là. Donc, on ne voit pas le logement social à prime abord là, dans le tissu de la ville. Mais ça, c'est la remarque de quelqu'un qui habite sur la rive sud. Là.
Oui. effectivement, à Laval, il y a une politique de l'habitation, mais il manque beaucoup de logements sociaux.
Mm-hmm.
Il n'y a pas de politique de logement adapté, par contre. Actuellement, à Laval, il y a plusieurs personnes qui ont des limitations fonctionnelles qui vont occuper un logement privé sans subvention, en fait, là, puis qui ne répondent pas à leurs besoins en termes d'accessibilité ou de
okay.
soutien communautaire. Puis en plus, la recherche d'un logement adapté ou accessible, ça peut être extrêmement difficile. Nous, au regroupement, on reçoit fréquemment des appels à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'on demande à la Ville de réaliser d'abord un portrait des besoins et de l'offre en matière de logement accessible et adapté. Puis on veut surtout que la Ville utilise ces données-là mm-hmm. lorsqu'elle va aller faire ses demandes-là aux autres paliers gouvernementaux
oui.
pour pouvoir augmenter le développement du logement social à Laval. Parce que, bon, le logement social, c'est une responsabilité partagée aussi.
Oui, oui, tout à fait. Ça n'incombe pas qu'à la municipalité, mais il y a une partie de l'enveloppe qui est défrayée par le gouvernement provincial, mais en première ligne, le contact va être avec la municipalité, puis c'est elle qui est la plus à même de faire d'abord un bilan de la situation. Laval aussi, si on parle, par exemple, de transport, c'est une ville qui est très éclatée parce qu'il y a une partie, quoi, il y a 30 % du territoire qui est encore agricole. Alors, il y a beaucoup d'îlots urbains qui sont séparés par des distances parfois non négligeables sur l'île de Laval. Et pour quelqu'un qui doit se rendre du point A au point B ou de chez soi à n'importe quelle destination, les transports en commun sont pas évidents non plus.
Non, effectivement, la mobilité, c'est vraiment, comme vous le dites, là, un enjeu très important à Laval. Nous, au regroupement, évidemment, on veut que toute personne puisse se déplacer de manière autonome et sécuritaire aussi,
mm-hmm.
tant au niveau de la mobilité active que du transport en commun. Bon, on le sait, Laval, c'est le royaume de l'auto.
Oui, tout à fait.
Oui. Donc, pour contrer ça, la ville de Laval, elle doit intensifier ses efforts pour rendre plus sécuritaires les infrastructures qui vont permettre la mobilité active. Quand je dis ça, je parle de sécuriser les intersections, ajouter des feux sonores, implanter des mesures d'apaisement de la circulation, assurer aussi le déneigement optimal des infrastructures. L'hiver, ça aussi, c'est un enjeu important. Donc ça, c'est plus pour ce qui touche à la mobilité active. Vous parliez de transport en commun. Ça aussi, effectivement, c'est un enjeu à Laval. Nous, on demande à ce que la Ville, évidemment, qu'il y ait une augmentation de l'offre et de l'accessibilité du transport en commun régulier. Mm-hmm. On souhaite que la ville, ben, quand elle acquiert du matériel comme des autobus, par
ce
exemple,
soit avec des planchers surbaissés, puis des rampes, tout ça, oui.
Oui, c'est ça. Donc, que les plus hauts standards d'accessibilité soient, soient assurés. Puis, pour le matériel, mais aussi pour le développement de nouvelles technologies ou quand ils vont développer aussi des applications mobiles. Donc, on doit s'assurer que ces applications-là, si elles sont offertes là, à la population, bien, elles doivent être accessibles.
Madame Joly, il y a 10 candidats à Laval. Est-ce qu'il y a, au moins depuis, quelques-uns vous ont répondu, vous ont dit « oui, on vous entend » ou pour l'instant, c'est « silence radio » ?
Non, c'est pas silence radio.
Ah, ben ça, c'est bon.
Vous l'avez dit, là, il y a plusieurs candidats aux candidates, mais la plupart nous ont confirmé là, qu'ils avaient pris connaissance de la plateforme puis que l'accessibilité universelle, c'était important pour eux.
Parfait.
Mais bon, c'est un outil de sensibilisation, disons.
Super.
Le vrai travail va se faire après les élections.
Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Joly. On a parlé avec Mme Joly du regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval, des demandes d'accessibilité. Merci.
Merci, au revoir.
Avec François Beauregard.
Bonjour de l'autre côté de l'heure et on va poursuivre en compagnie de Mme Sophie Langteau. Bonjour Mme Langteau, comment allez-vous?
Bonjour M. Beauregard, très bien, merci beaucoup de l'invitation.
Ah ben ça nous fait plaisir. Mme Langteau, vous êtes architecte de formation et vous êtes aussi, et depuis déjà un bon nombre d'années, directrice générale de Société Logique, dont c'est cette année la 40e année, je pense, d'activité. Société Logique est née en 1981 au cours de l'année internationale des personnes en situation de handicap pour essayer de trouver des solutions de design accessibles et universelles au Québec. Et depuis ce temps-là, bien, vous n'avez pas arrêté.
Effectivement. Je dois juste vous corriger un petit peu. Je suis pas architecte. J'ai une formation en urbanisme.
Ah, bien, je suis désolé, mais ça compte quand même.
Il faut que je précise. C'est important qu'on mette bien les bons
gentil.
Chapeaux.
Je m'en
Et
excuse.
Oui, ça fait 40 ans que Société Logique existe. Puis notre travail, c'est de favoriser l'inclusion par des aménagements qui sont plus fonctionnels pour tous. Là, on était pionniers de tout ça il y a 40 ans. Puis moi, ça fait 35 ans que j'œuvre dans cette belle organisation. Là.
Souvent, quand on parle d'accessibilité, il y a peut-être un mouvement de repoussoir, comme quoi l'accessibilité, c'est pas joli. Hein, ça fait des rampes, ça fait beaucoup de tuyaux en métal partout. Puis,
En fait, c'est pour ça que nous, on parle de design universel.
D'accord.
C'est vraiment de concevoir les lieux en tenant compte des besoins de tout le monde pour que toute personne, quel que soit son âge et ses habiletés, soit capable d'utiliser l'espace, de s'orienter, de circuler, de vivre des expériences similaires. Donc, de ne pas rajouter des éléments qui sont pas
comme
nécessairement...
Comme coller de façon un peu artificielle. Des fois, on a l'impression que l'édifice a été conçu et bâti, puis là, au bas de la dernière page, c'était marqué « Ah oui, il faut une rampe, puis il faudrait qu'il y ait telle chose. Bon, on va faire ça le huitième jour, là, voilà. »
Exactement, puis c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Si on pense dès le début à des besoins plus larges, puis aux besoins de tout le monde, bien, ce qu'on va trouver, c'est des solutions qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de faire des ajouts. On va utiliser les éléments intrinsèques de notre projet, que ce soit un bâtiment ou un aménagement urbain, puis on va déployer tout ça pour que ça fonctionne bien pour tout le monde, sans qu'on rajoute des choses, sans, comme vous dites, que ça ait l'air plaqué après parce qu'on l'a oublié, puis sans que ça génère non plus des coûts supplémentaires. C'est quand on ne le fait pas comme il faut au début qu'après ça, ça coûte cher à corriger.
En fait, c'est plus cher et c'est moins joli. Corriger quelque chose qui existe déjà que de partir à neuf là, avec une consultation en amont. Qui utilise vos services de Société Logique? Qui vous aborde pour dire on a un projet, on doit soit rénover ou rebâtir, bâtir tout neuf quelque chose? On va aller voir Société Logique. Qui se sert de vos services?
Bien, beaucoup les municipalités ou les grandes corporations qui viennent nous voir parce que, bon, ils ont réfléchi à ces questions-là et ils veulent favoriser l'inclusion, ils veulent favoriser aussi l'embauche des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, ils viennent nous voir parce qu'ils ont eu l'occasion de réfléchir à tout ça. Je vous cacherai pas que les municipalités, les villes qui ont l'obligation de faire un plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées depuis quand même plusieurs années, ben ils ont eu le temps d'absorber là, tout ça puis d'être prêts à passer à l'action. Là. Mm-hmm. Donc, c'est principalement les municipalités.
D'accord. Oui, de ce temps-ci, tout d'un coup, c'est le temps des élections municipales. Là. Alors, Longueuil, Laval, Montréal, tout le monde dit oui, on a un plan d'accessibilité universelle. Là. Vous allez voir, les quatre prochaines années vont être différentes. Alors, c'est à ce moment-là que on espère qu'il vous passe un coup de fil parce que le design universel, puis ça, c'est pas la même chose que l'accessibilité. C'est l'accessibilité, mais c'est beaucoup plus que ça.
Exactement. Bien, en fait, le design universel, nous, on utilise ce terme-là en aménagement parce que ça rejoint beaucoup les concepteurs, hein, les architectes, les architectes du paysage comprennent beaucoup plus que ce qu'on veut dire quand on parle de design universel. Puis, tout ce qu'on a dit dans les minutes précédentes, que ça soit intégré au projet puis pas rajouté, ça fait partie du design universel. Tu sais, dans le fond, on a un projet où on veut préserver le patrimoine, par exemple, ben, il y a des règles, mais le design universel, c'est la même chose. Si on veut répondre aux besoins de tout le monde, ben, on peut le faire de façon harmonieuse. Fait que, il y a vraiment une distinction. Puis le design universel, ça vise pas les personnes en situation de handicap. Ça vise toute la population.
Exactement. Ça va donner comme résultat que, oui, les personnes en situation de handicap vont être mieux servies, vont avoir une meilleure expérience, vont pouvoir plus facilement avoir accès à un lieu et ce sera plus sécuritaire pour elles. Mais ce sera aussi la même chose pour n'importe qui va y être. Un trottoir encombré de mobilier urbain, là, c'est pas plaisant pour personne.
Exactement. Le but, c'est vraiment que ça serve au maximum de citoyens possibles. En se référant, c'est un peu comme notre grille d'analyse. Hein. On dit que les difficultés des gens qui ont différentes limitations fonctionnelles, c'est des révélateurs des défis rencontrés par d'autres personnes. Puis si on y apporte une solution qui est intégrée, bien, tout le monde va pouvoir en bénéficier.
Sur le site de Société Logique, vous avez entre autres une série de petites vidéos qui expliquent très bien qu'est-ce que c'est que le design universel. Et entre autres, dans une de ces vidéos-là, il y a une magnifique bibliothèque. J'ai regardé la vidéo, elle est où cette bibliothèque? Parce que c'est vraiment bien fait. Là, l'accès, les comptoirs, les personnes de petite taille, les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées visuelles ou qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme. Là, tout le monde et toute la population se sent à l'aise dans ce milieu-là. Est-ce que c'est au Québec, cette bibliothèque?
Oui, c'est une bibliothèque qui est dans l'arrondissement Saint-Laurent. C'est la bibliothèque du Boisé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette bibliothèque-là, oui, c'est un super exemple de design universel, mais c'est une bibliothèque qui a gagné de nombreux concours d'architecture sans que le design universel soit nécessairement un critère de sélection pour ces concours. Donc, c'est
ça fonctionne. OK. Elle n'a pas gagné un prix de design universel, mais c'est le design universel qui lui a permis de gagner des prix parce que j'écoutais la vidéo, comment c'était décrit. Ça donne le goût d'y aller. Puis on se demande pourquoi qui ne voudrait pas, si je peux dire, y passer une après-midi. Vous avez aussi, je pense, une collaboration avec la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal.
Effectivement, la CHAPEM travaille avec nous pour gérer nos logements, parce que ça, les gens savent pas, là, mais Société Logique, on est aussi propriétaire d'habitation. Parce que il y a 40 ans, on a commencé à intervenir en habitation, puis notre nom, c'était Société d'habitation communautaire Logique pour Logique Québec.
OK. Donc, comme ça que le premier projet... il y a 40 ans, de ce qui est Société Logique aujourd'hui, c'était un édifice de logement adapté.
C'est comme ça que ça a commencé? C'était déjà du design universel.
OK.
Tous les logements sont conçus selon le même concept, puis on voulait pas qu'ils soient occupés uniquement par des personnes qu'on appelait des personnes handicapées à l'époque. Mm-hmm. On voulait qu'ils soient occupés par une clientèle qui ressemblait à la clientèle du quartier pour pas faire un ghetto. Ça a été, dans le fond, notre premier projet de démonstration, parce qu'on parlait de design universel en théorie. Et là, on se ramène en 81, là,
oui,
en 81.
Oui.
Ça...
le désert était vaste.
On n'en parlait pas beaucoup de design universel.
Oui, oui. Fallait parler fort pour se faire entendre dans le désert.
Exact. Puis c'est pour ça qu'on a choisi l'approche à ce moment-là de faire un projet de démonstration. C'est mm-hmm. on va expliquer ce qu'on veut dire, là, mais on va montrer que c'est faisable. Donc, ça a été notre premier, puis on a réalisé quatre autres par la suite. On a mm-hmm. cinq projets actuellement. On a 170 unités de logement qui sont universellement accessibles. Puis le but, c'est de démontrer que c'est faisable, c'est réalisable pour inciter d'autres à le faire mm-hmm. aussi. Donc, le travail avec CHAPEM, CHAPEM gère nos immeubles, D'accord. gère nos logements. Et CHAPEM est aussi un développeur de logements social et communautaire, donc qui adhère au concept de design universel puis qui le met en œuvre dans les projets qu'il réalise. Donc, c'est une belle entente de collaboration qu'on a avec eux. Là.
Dans le design universel, il y a aussi... je dirais la conception des espaces urbains, là, hors, mettons, d'une bibliothèque ou d'un logement, mais il y a aussi les rues, les carrefours, ainsi de suite. Puis, c'est parce que là, l'aspect sécuritaire devient d'autant plus élevé parce que là, on commence à partager l'espace avec des véhicules automobiles et c'est pas... c'est pas souvent gagnant-gagnant là, comme situation. Est-ce que vous intervenez aussi à ce sujet-là?
Oui, puis au cours des années, on a rapidement constaté que si on se limitait à l'habitation, c'était pas suffisant pour l'inclusion. Mm-hmm. Donc c'est là où on a commencé à s'intéresser à tous les autres sujets. Bon, les lieux publics, bibliothèques, on en a parlé un petit peu, mais tout ce qui était les parcs, mm-hmm. les intersections, les rues, les trottoirs, les places publiques, tout ce qui est aussi, on appelle ça maintenant l'urbanisme tactique, là, donc mm-hmm. toutes les interventions qui sont temporaires, éphémères, qui permettent d'apprendre des aménagements, puis comment les gens l'utilisent pour après ça les réaliser de façon permanente. Fait que toute la question des rues piétonnisées temporairement,
oui, c'est vrai.
Les corridors de distanciation l'été passé dans le cas des mesures COVID, mm-hmm. les abords des chantiers de construction aussi, c'est
oui,
tout
ça,
des
ça,
sujets
je peux...
sur lesquels on travaille.
Ça, Mme Langteau, je peux vous dire qu'à titre de personne handicapée visuelle là, qui se déplace au centre-ville avec une canne blanche, les abords de chantiers de construction, je pense que le design universel n'y a pas encore, ne s'y est pas encore taillé une place. Là.
Oui, ben c'est long, hein, parce que oui. les chantiers, il y a plusieurs intervenants qui réalisent des chantiers. Les villes réalisent des chantiers pour leur propre bénéfice, mais il y a des propriétaires, mm-hmm. promoteurs privés qui
oui,
réalisent
aussi.
Des chantiers qui nous bloquent le passage. Il y a d'autres grandes corporations, je pense à Hydro-Québec, mm-hmm. Énergie, qui réalisent aussi des chantiers qui sont pas nécessairement tous au même endroit par rapport au design universel, mm-hmm. à la circulation aux abords des chantiers. Il y a encore du travail à faire pour que ça soit fluide, les déplacements là, dans la ville. Là.
Oui, je vous comprends. Quand vous parliez plutôt des mesures temporaires, ça me fait penser, par exemple, je dis ça parce que c'est dans mon coin, la rue Saint-Charles à Longueuil, là, qui devient partiellement piétonnière pendant l'été, mais pas pendant l'hiver. Alors ça vous permet aussi de faire une démonstration de ce qu'est l'accessibilité universelle. Alors, ben, on souhaite longue vie à Société Logique, puis on souhaite surtout que les gens s'en servent, les institutions, les instances gouvernementales. Là, ça devrait faire partie du parcours normal de la mise en place d'un projet.
Ben, Madame... Oui, puis c'est notre grand défi. Hein? On ne peut pas accompagner tous les projets. Il y en a trop. Avant, les gens n'adhéraient pas au concept. Notre travail, c'était de les convaincre. Maintenant, ils adhèrent de plus en plus au concept. Ils veulent être accompagnés. Fait que notre travail change. On doit les outiller, on doit mm-hmm. les former pour qu'ils soient le plus autonomes possible parce qu'on ne pourra pas accompagner tous les projets.
Du début à la fin. Voilà.
Ouais, donc, c'est nos défis pour les prochaines années. Là. Être capable de déployer tout ça puis de pouvoir mettre notre énergie l'énergie pour trouver des solutions aux problèmes plus complexes où les solutions
qui
sont
qui
pas
va, problèmes qui vont aller en s'accélérant avec le vieillissement de la population, entre autres. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Langteau, directrice générale de Société Logique et qui fête son 40e anniversaire et on vous en souhaite beaucoup d'autres. Merci.
Ben, merci. Bonne journée. Place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. C'était Crosby, Stills, Nash & Young, Our House, une chanson qui célèbre le plaisir simple d'être bien chez soi, puis un petit peu de coucounage. Hier, il faisait mauvais, puis c'était une journée idéale pour coucouner, là, à moins d'aller aux bonbons puis aux friandises en imperméable, là, mais sinon on coucounait. Alors voilà, c'est ça. Bonjour Mme Campagna, comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous M. Beauregard?
Ça va bien. Est-ce que vous avez passé l'Halloween ou vous avez coucouné?
J'ai coucouné, sauf un moment où je suis allée faire quelques courses et où j'ai notamment couru des librairies d'occasion pour trouver des livres pour un neveu.
Mais, oh, OK, OK. Des librairies d'occasion, ça c'est... Les livres quittent les maisons parce qu'on... Si vous regardez les designs, maintenant les bibliothèques, ça sert juste à mettre deux ou trois petites statues là ou des chandelles. Puis il n'y a plus de livres, hein? Le papier se perd.
Bien, il y a aussi que les enfants vieillissent et le niveau de lecture, les goûts changent.
Oui, aussi.
Mais c'est une aubaine pour qui cherche des livres à donner en cadeau.
Voilà, bien, c'est une excellente idée parce que le plaisir de lire, là, la technologie ou non, mais il ne faut pas que ça se perde. Alors, voilà. En parlant de lecture, vous en avez fait pas mal pour nous cette semaine.
Oui, ça nous mène principalement aux États-Unis. Mm-hmm. D'abord, un changement de design. On parlait de design tout à l'heure.
Oui.
Un changement de design tout simple va rendre les nouvelles cartes Mastercard plus faciles à utiliser pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Ah oui? Qu'est-ce qu'elles vont faire?
Et donc, Mastercard a annoncé un nouveau design qui aide à, tout d'abord, orienter la carte dans le bon sens.
Ah, savoir où est la puce, puis la bande magnétique, oui.
et à déterminer rapidement s'il s'agit de notre carte de crédit, notre carte de débit ou d'une carte prépayée.
Okay. Est-ce qu'ils vont couper un coin comme les cartes d'INCA?
Voilà, c'est un coin qui sera fait de façon différente. Les nouvelles cartes vont comporter trois encoches là, à une des extrémités. D'abord, une empreinte ronde pour les cartes de crédit, une empreinte carrée pour les cartes de débit et une empreinte triangulaire pour les cartes prépayées.
Ah,
alors, c'est un petit détail qui, pour la plupart des usagers, va être sans importance, va être à la limite esthétique, mais qui marque une étape importante dans la quête d'inclusivité de l'entreprise.
OK. Puis, alors, c'est bien. Pas trop compliqué. Est-ce que la carte va devenir brûlante quand on va avoir dépassé notre limite ou quelque chose comme ça? Non, il n'y aura pas d'aspect
tactile. Non, mais déjà, on dit que Mastercard avait instauré une petite sonorité à la fin des transactions pour indiquer qu'elles sont terminées. Bon, évidemment, je parle des États-Unis, quoi qu'on parle aussi de Grande-Bretagne, parce que Raja Manar, qui est directeur du marketing et de la communication, explique qu'ils ont travaillé avec le Royal National Institute of Blind People au Royaume-Uni pour s'assurer que les encoches étaient utilisables, suffisamment différenciables pour la population malvoyante. Par exemple, ils ont rejeté rapidement l'idée d'utiliser du braille comme option. Oui. Parce que seule une personne aveugle sur 10 peut lire le braille. On dit qu'aux États-Unis, près de 90% des enfants aveugles n'apprennent pas le braille.
Oui,
ce serait un tout autre sujet.
Oui, on en parlera un autre jour. On parlerait du goût de la lecture et du livre papier qui se perd parfois, mais je pense qu'on fera quelque chose sur le braille et sa pérennité. Là. Oui.
Voilà. Alors, on dit que la carte sera disponible pour les clients américains au début de 2022. Alors, il n'y avait pas de données dans cet article pour le Canada.
Oui.
Mais c'est un design qui tombe à point parce qu'aussi, de plus en plus dans le design des cartes, on élimine les autres reliefs. Par exemple, les chiffres et tout ça, parce qu'il avait été conçu pour les fameuses machines...
Ah oui, les chick-a-chick!
Voilà, exactement.
Oui.
Et vu qu'on n'en a plus besoin, on a tendance à les éliminer sur les cartes et les personnes se fiaient peut-être là-dessus.
Oui,
alors
oui.
Là, ils n'auront qu'à toucher le coin de leur carte, ce qui va être beaucoup plus simple aussi
en même temps. Et en fait, il y a de moins en moins de transactions en argent comptant. Pas juste pour des questions de contamination, parce que les mesures sanitaires là, ont parfois imposé cette restriction de ne pas utiliser d'argent comptant. Mais avant cela, même l'utilisation de l'argent comptant commençait à être mise en question. Il y a plusieurs commerces qui n'acceptaient tout simplement pas l'argent comptant. Et donc, on peut penser que les cartes vont être universellement répandues.
Alors, on parle de Mastercard, on verra ensuite si les autres vont suivre. Idéalement, avec des... designs similaires pour pas que ce soit mélangeant pour chaque carte.
Ah oui, si j'ai une Mastercard, une Visa ou
une Desjardins.
Alors, eux ont mis déjà la main sur le carré, le rond et le triangle.
Ben, idéalement, ce serait universel.
Oui, d'accord, je peux comprendre.
Alors, toujours aux États-Unis, on se demande si on pourra bientôt, des personnes en situation de handicap pourront bientôt aller dans l'espace, puisque des personnes vivant avec divers handicaps ont testé leurs compétences et leurs technologies lors d'un vol de recherche en apesanteur, dans le but justement de voir si elles peuvent y aller en toute sécurité. On parle notamment d'Eric Ingram qui se déplace en fauteuil roulant, qui est le PDG de Scout Enterprise, qui fait des composants de satellites intelligents. Il est né avec un syndrome qui affecte ses articulations et ça l'a empêché de réaliser son rêve de devenir astronaute. Il avait même postulé, il a été rejeté deux fois. Mais là, à bord de ce vol-là, il s'est rendu compte qu'il pouvait filer sans effort dans les airs, sans rien toucher, et qu'il était plus facile, en fait, pour lui de se mouvoir en apesanteur.
Oui.
Il avait moins besoin d'aide et il a même réussi à se tenir debout, ce qu'il n'arrive pas à faire dans son quotidien.
Sur Terre ou dans un endroit où la gravité s'applique, parce que l'apesanteur, c'est l'absence de gravité. Donc, on peut penser que la restriction du poids du corps sur des membres qui ne peuvent pas le soutenir, ben là, ça disparaît.
Exactement. Il était donc un des 12 passagers qui avait divers types de handicap. Il y avait notamment une femme non-voyante aussi, qui a testé diverses façons là, de pouvoir détecter là, si elle approchait d'un mur. Mais le plus simple, c'était tout simplement sa canne.
Oui,
c'est
tout
l'outil
à fait.
Qui a fonctionné le mieux.
Il faut faire attention si le mur est couvert de manettes, de boutons et de cadrans, là, de pas s'éjecter. Mais ça, c'est une mauvaise blague de malvoyant là, qu'on se fait entre nous. Mais ce qui est certain, c'est que... En fait, la question, c'est pourquoi pas quelqu'un pourrait... tout à fait. C'est une grande partie du travail d'astronaute, c'est des compétences intellectuelles.
Voilà. Le vol est organisé par AstroAccess, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à rendre les vols spatiaux accessibles à tous. Bien qu'environ 600 personnes se soient rendues dans l'espace depuis le début des vols spatiaux habités dans les années 1960, genre d'article dont les chiffres changent maintenant chaque semaine.
Oui, c'est comme escalader l'Everest. Hein, Edmund Hillary, là, puis le Sherpa Tangsing, là, c'était exceptionnel au début des années 50. Maintenant, c'est comme aller en croisière. Oui.
Oui, la NASA a longtemps limité le travail d'astronautes à une infime tranche de l'humanité, au départ hein, des hommes blancs, mais maintenant, il y a encore beaucoup de critères répondant à certaines exigences physiques. Mais on dit qu'avec l'essor des vols spatiaux privés, financés par les milliardaires, avec le soutien des agences spatiales gouvernementales, se crée la possibilité de permettre à un groupe de personnes beaucoup plus large et plus diversifié de faire des voyages. Alors, l'idée avec d'Astro Access, c'était de faire des tests en amont, encore une fois, on revient au design universel, pour qu'on puisse tout de suite concevoir les prochains vaisseaux spatiaux, tout ça, avec des attributs d'accessibilité et en soulignant que souvent, en voulant faciliter, je répète ce que Sophie a dit tout à l'heure, mais souvent en voulant faciliter la vie des personnes ayant un handicap, on va se trouver à mettre des choses qui vont faciliter la vie de tout le monde d'abord.
Oui, tout à fait. C'est plus accessible, c'est plus accessible pour tout le monde, point à la ligne.
Exactement. Et toujours...
Astro Access.
Oui.
C'est bien, on est rendu à rendre le cosmos accessible et parfois on a encore de la misère à se rendre à l'arrêt d'autobus. Mais c'est comme ça l'humanité. Hein? Il y a une grande distance entre la locomotive et la caboose en arrière.
Oui, et il y a toujours aux États-Unis des obstacles qui, eux, sont plutôt légaux. Ah? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les personnes aveugles ont gagné le droit à nouveau de déverrouiller les DRM. Là, c'est un système qui bloque les livres...
DRM.
Les livres numériques, mais ça sera recommencé dans 3 ans. Parce que on dit dans l'article de Wired que la vie numérique devait rendre l'information plus disponible, mais que c'est loin d'être vrai pour les personnes qui ont un handicap visuel et que les défenseurs des personnes aveugles aux États-Unis mènent une bataille sans fin pour accéder à ces livres numériques que les personnes voyantes prennent pour acquis. Au cours de l'année écoulée, ils ont à nouveau fait un long processus de recours pour obtenir une exemption à la loi de 1998 sur le droit d'auteur numérique qui fournit une couverture légale aux personnes pour créer des versions accessibles des livres électroniques.
On me dit, je m'excuse, à l'oreille que DRM, ça veut dire Digital Right Manager.
Voilà, exactement. Et ce qu'on dit, c'est que cette loi de 1998, elle a été créée à une époque peut-être... d'une certaine paranoïa qui concernait pas ce genre de littérature-là. Mm-hmm. C'est l'époque de Napster. Ce qui nous inquiétait, les adolescents qui extrayaient des chansons des disques pour mieux
depuis
les
partager. Depuis ce temps-là, l'industrie de la
partager.
Musique a trouvé le moyen de faire de l'argent dans un autre environnement. Là. Ça a changé complètement de ce côté-là.
Mais pendant ce temps-là, les personnes qui ont un problème d'accès à l'imprimé, à l'écriture, vivent encore des obstacles. Et imaginez qu'à tous les 3 ans, les organismes doivent refaire la bataille, et une bataille qui se fait à armes inégales puisque les associations n'ont pas les mêmes moyens financiers que les ayants droit.
Mais comment ça se fait qu'à tous les 3 ans, il faille réexpliquer pourquoi ça n'a pas de sens? C'est comme personne ne s'en souvient, d'autre côté?
Bien, c'est qu'à chaque fois que c'est la Bibliothèque du Congrès qui accorde cette exception, à chaque fois, ils ne l'accordent que pour 3 ans. Ils ne l'accordent pas pour de bon.
Mais pourquoi bon? Pourquoi juste pour 3 ans? C'est comme... Mais dans 3 ans, il n'y aura plus de personnes handicapées visuelles, alors on n'aura plus de problème, quoi. C'est ridicule. C'est une prérogative... administrative
Et même quand de grands distributeurs, eux, ont voulu rendre la vie plus facile, par exemple Amazon, les ayants droit, les compagnies d'édition sont intervenues pour qu'Amazon ne puisse pas le faire sur sa liseuse Kindle 2. Et là, c'est redevenu du cas par cas parce que c'est chaque éditeur qui peut activer ou désactiver cet accès.
Oh là là. Mais cette histoire de droit juste pour 3 ans, là, moi, ça me coupe le souffle.
Il y a un espoir qui vient de l'Union européenne qui a exigé qu'à partir de 2025, tous les livres électroniques publiés dans l'UE soient entièrement accessibles. Alors, ça pourrait avoir un effet sur le marché mondial.
Super. Bravo, l'Europe. Encore une fois. Merci beaucoup, Christiane Campagna. Vous qui savez, et voyez et dites tout. Hein? C'est pour notre bonheur. Et je remercie également Jean-Sébastien Laliberté, qui non seulement me souffle à l'oreille, mais est en train de passer son savoir à Nicolas Schwartzmann, qui va être avec nous la semaine prochaine. Tout ça à Sans Détour.